Depuis quelques années maintenant, un programme fait fureur à l'enseignement des enfants de notre Église. Ce programme, c'est l'invité mystère. Un des membres de notre assemblée se déguise et rend visite donc aux enfants qui lui posent des questions pour essayer de deviner qui il est. Et ensuite, cet invité mystère donne son témoignage pour leur témoigner justement comment il a appris à compter sur Dieu dans sa vie. Alors bien sûr, pour les enfants, et je suis sûr que vous êtes en train de le faire, vous demandez qui est derrière le masque, le moment qui provoque le plus d'adrénaline, c'est celui où on essaye de deviner qui est cette personne. Et pour les enfants, c'est pas facile, parce qu'en fait, l'invité mystère n'a pas le droit de parler, il peut juste hocher de la tête pour faire oui ou non, et puis ils sont souvent bien du mal à trouver la question qui va à coup sûr confondre cet invité. Et puis, généralement... L'invité garde son identité secrète jusqu'au bout, et quand il enlève son masque, on entend des « Mais bien sûr !» ou « Je le savais !» Comme une énigme autour de laquelle on a tourné là, hein, pendant un certain temps, et quand elle se révèle, on est sûr de notre coup. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que ce petit jeu de l'invité mystère provoque toujours autant d'enthousiasme de la part des enfants. L'invité mystère, vous avez peut-être joué à ce jeu dans vos lectures d'Ésaïe ces derniers temps, où vous vous êtes peut-être un peu demandé autour des lectures que l'on a faites ces trois derniers dimanches de l'Avent, parfois un peu mystérieuses, mais qui est ce fameux serviteur de l'Éternel ? Parce que l'invité mystère d'Ésaïe, c'est ces quatre chants du serviteur, dont Sandrine a fait écho et qui étaient donc les trois lectures proposées cette année autour des bougies. Alors, les théologiens sont parfois pas toujours tout à fait d'accord sur le découpage des textes, mais voilà en gros à quoi ressemblent les quatre textes dont on va parler ce matin. Ésaïe 42, le premier chant qui présente donc ce serviteur de l'Éternel, Ésaïe 49, dont peut-être certains ont eu l'occasion de méditer dans le groupe de maison. Ésaïe 50, le troisième chant, c'était celui dont on a lu donc le passage ce matin. Et le quatrième chant le plus connu, Ésaïe 52-53. Et c'est donc sur l'ensemble de ces quatre chants que je vous propose de nous arrêter ce matin pour tenter, un peu comme les enfants de l'école du dimanche, de percer le mystère de l'identité de cet invité. Et puis on entendra ensuite, comme à l'école du dimanche, le témoignage de cet invité qui, à coup sûr, continuera de nous encourager à compter sur Dieu, à compter sur l'Éternel, un peu comme le mot d'ordre que l'on s'est donné sur ces mois d'automne et d'hiver. Alors, pour commencer, écoutons de quelle manière ce serviteur est introduit dans le livre d'Ésaïe. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. » Je lui ai donné mon esprit, et il établira la justice pour les nations. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur esprit en sa loi. » Mais qui peut bien être cet invité mystère d'Ésaïe ? Alors, comme dans tout jeu, il y a toujours les petits malins qui ont vu la personne qui est sortie pendant le temps de louange et qui se sont dit « Ah, ça doit être lui !» Ou alors, qui ont essayé d'entrebâiller la porte au moment où l'invité mystère était en train d'enfiler son déguisement et ont un petit peu triché pour savoir qui il était. Et on pourrait, nous, faire la même chose. Oui, le Nouveau Testament, et on l'a encore entendu ce matin, nous révèle l'identité de ce serviteur de l'Éternel, et on se dirait, c'est Jésus-Christ, on ne va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Pourtant, rappelez-vous que chercher à deviner qui est cet invité mystère est la partie, sans doute, qui donnait le plus d'enthousiasme à nos enfants. Et peut-être qu'il y a la même démarche à vivre pour nous, pour être vraiment attentifs au moment où cet invité va nous donner son propre témoignage. Alors pour cela, je vous invite, l'espace de quelques instants, de nous glisser dans la peau de ceux à qui ces paroles étaient premièrement destinées, ce qui, dans le livre d'Ésaïe, n'est peut-être pas si simple que ça. On l'a rappelé à plusieurs reprises, mais la génération d'Ésaïe a donc échappé miraculeusement à la déportation assyrienne. C'est cette date de 701 où Jérusalem a été miraculeusement libérée des armées du roi d'Assyrie. Et du coup, on ne comprend pas très bien, quand on lit le livre d'Ésaïe, toute cette deuxième partie du livre, à partir du chapitre 40, qui semble être un livre de consolation pour un peuple déporté en exil, alors que justement la génération d'Ésaïe, elle, n'a pas vécu cela. Mais Ésaïe lui-même nous a mis sur la piste. Il a repéré que si sa génération, elle, a échappé à la déportation, il viendra un jour où une autre génération va, entre guillemets, payer pour les autres et elle-même devoir être déportée dans un pays lointain. Et 150 ans plus tard, plus aucun doute. Après la chute de Jérusalem et la déportation à Babylone, les propos d'Ésaïe font mouche. C'est comme si le peuple en exil recevait de la part d'un prophète lointain des nouvelles étonnantes. Après 70 ans d'exil, la situation géopolitique va à nouveau être ébranlée. Un nouveau maître du monde entre en scène, Cyrus le Mède, un tyran, un empereur en tout cas, mais qui semble un peu plus éclairé que ses prédécesseurs et qui va promulguer différents édits pour que les peuples qui étaient en exil, il n'y avait pas que les juifs, puissent retourner sur leur terre natale. Et en 539, c'est comme ça que l'édit des juifs a été promulgué par cet empereur et les a renvoyés vers Jérusalem. Et on a un écho incroyable de cet édit tout au long des chapitres, là, 40 à 50 d'Ésaïe, qu'on a pu lire pour ceux qui font la lecture suivie ces derniers jours. Voilà un de ces échos enthousiastes. « Sortez de Babylone ! Fuyez les Chaldéens avec des cris de joie ! Publiez la nouvelle, proclamez-la partout, répandez-la au loin jusqu'au bout de la terre. Dites que l'Éternel a délivré son serviteur Jacob. » Et ce qui est tout à fait remarquable chez Ésaïe, et ce qui parfois trouble les théologiens, qui vont trouver d'autres scénarios pour expliquer le livre d'Ésaïe, mais nous croyons que c'est bien Ésaïe qui a écrit l'ensemble du livre, c'est qu'Ésaïe va nommément celui qui va les délivrer. Il va l'appeler de son nom Cyrus. Et je dis de Cyrus, 150 ans à l'avance, c'est mon berger, il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, il dira du temple, posez ses fondations. Alors, ça, on peut expliquer que peut-être Cyrus est un titre générique, c'est pour ça qu'Ésaïe a pu le nommer, j'ai envie de dire, 150 ans avant, mais il n'en reste pas moins que c'est tout à fait extraordinaire ce dont nous sommes témoins dans ces lectures ce matin. Et forcément, quand Ésaïe commence à parler de ce serviteur de l'Éternel en Ésaïe 42, avec les termes qu'il a employés, mon serviteur que je soutiens, que j'ai choisi, qui fait toute ma joie, qui établira la justice pour les nations, qui ne brisera pas le roseau qui ploie, qui n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Et là, on peut penser à un peuple, justement, en exil, sur le point de disparaître totalement. Et que non, il est tout d'un coup relevé, il établira la justice pour les nations, jusqu'au bout de la terre. En lisant ce passage, je pense qu'assez naturellement, le peuple en exil a pu imaginer que c'est Cyrus qui se cachait derrière la figure de cet invité mystère. Et d'ailleurs, le deuxième chant commence un peu sur les mêmes bases. On a l'impression d'une œuvre qui sied bien à un empereur tel que Cyrus. Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez. Et vous, peuple lointain, prêtez-moi attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel. Et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Mais la suite va prendre une toute autre tournure. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguisée. Il m'a tenu caché dans son carquois. C'est intéressant parce que l'image militaire continue, mais elle n'est plus appliquée à un empereur qui irait de par la terre envoyer ses armées. Elle est associée à l'efficacité, de la parole de Dieu. C'est la parole ici qui est précise et pénétrante. Et ça, eh bien, c'est une caractéristique typique du ministère prophétique qui parcourt tout l'Ancien Testament. C'est comme si les indices autour de cet invité mystère étaient soudainement brouillés. Cyrus n'est plus le candidat idéal, mais c'est plutôt un prophète. Un prophète dont les paroles annoncent le salut à tous les peuples. Est-ce qu'il faut chercher un prophète en particulier ? Ésaïe tomberait sous le sens, c'est lui qui a écrit ce livre. Jérémie, beaucoup d'allusions dans les différents chants du serviteur peuvent nous faire penser à Jérémie. Et Jérémie, c'est un peu le dernier prophète qui a parlé juste avant l'exil en Babylonie, avec des paroles justement tranchantes que le peuple n'a pas écoutées. Et on peut se dire en lisant ça, oula, est-ce que c'est de Jérémie dont on parle ? Surtout que ça colle assez bien, pour le coup, avec le troisième chant qu'on a lu ce matin, qui nous présente un prophète, justement, martyrisé pour le message, à cause du message qui n'est pas reçu, le message qu'il avait, donc sur sa bouche. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais, je ne serai pas dans la route. » Oui, mais voilà, il y a le dernier chant qui renverse toutes ces théories. Le martyr du serviteur, certes, continue, mais c'est un martyr assumé. Pour accomplir une œuvre en faveur d'autres, payer le prix du péché. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais on peut déjà d'ores et déjà dire qu'aucun des prophètes de l'Ancien Testament n'a eu cette prétention d'être martyrisé pour payer le prix du péché d'autres. Quel étrange invité mystère, n'est-ce pas ? On a eu l'impression de le démasquer à plusieurs reprises. Chaque candidat, Cyrus, Jérémie, Ésaïe, ont certes des ressemblances frappantes, mais c'est comme si la description du serviteur faisait éclater toutes nos cases, comme s'il dépassait largement tout ce que ces simples hommes ont pu accomplir. Qui peut-il bien être ? Et d'ailleurs, pourquoi tant de mystères ? Pourquoi ne pas nous dire directement qui elle est ? Pourquoi venir avec un masque ? Il est probable que cela fasse partie de la pédagogie de Dieu. Car le fait d'identifier ce serviteur, un peu comme on l'a fait là, à des figures repérables par le peuple en exil, a eu un effet profondément consolateur pour ce peuple. C'est comme si l'Éternel voulait que les Israélites voient dans tous ces serviteurs-là, parce qu'ils sont bien quelque part des serviteurs, des instruments au service de l'action de l'Éternel. Oui, Cyrus a bel et bien été renvoyé par Dieu pour délivrer son peuple d'exil. Oui, les prophètes ont bel et bien ce ministère d'avertir, de consoler, mais voilà, le peuple dans ce qu'il est en train de vivre. Non, Dieu n'avait pas abandonné son peuple en exil. Oui, il continuait d'agir en leur faveur. Mais on l'a entendu, c'est comme si ce serviteur était encore caché dans le carquois de Dieu, comme pour dire que l'œuvre extraordinaire que cette génération était en train de vivre, un retour d'exil de Babylone sur leur terre, n'était que les prémices d'une œuvre encore plus grande et plus complète que Dieu avait en réserve pour eux. Une œuvre qui serait révélée au moment où, justement, le serviteur de l'Éternel ôterait son masque. Mais même pour nous, qui connaissons l'identité de ce serviteur, on l'a dit, c'est Jésus-Christ, nous qui connaissons l'œuvre plus grande et plus complète que Dieu a accomplie en faveur de son peuple, le pardon des péchés, on vit une sorte de pédagogie similaire. Notre cité à nous, ça n'est plus Babylone, mais ça n'est pas non plus Farmoutier, Mourou, Morcerf. Nous aspirons aussi à un retour d'exil vers une cité bien meilleure. pour l'heure, nous sommes appelés à voir Dieu agir dans notre quotidien, à travers peut-être tel ou tel frère de l'Église, peut-être des circonstances où on se dit « mais ça ne peut être que Dieu », à travers la parole, à travers la prière. Ce sont nos Cyrus, nos Jérémie, nos Ésaïe à nous. Mais ils sont des signes qui nous aident à patienter dans le temps présent. Nous connaissons l'œuvre plus complète, mais nous ne la connaissons qu'en espérance encore. En espérance de cette restauration, dans l'attente de sa pleine réalisation. Elle n'est certes plus aussi mystérieuse qu'au temps d'Ésaïe. Pourtant, le défi d'utiliser ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous expérimentons reste grand, car tout cela est bien en deçà que le fait de s'appuyer sur ce que Dieu promet, sur ce que Dieu dit. Le défi reste le même, utiliser ce que nos yeux voient pour faire confiance à Dieu et à ses promesses. Et je pense que, en quelque sorte, le témoignage de chacun des invités mystères qui sont allés à l'école du dimanche ressemble à ça. Utiliser, certes, ce que nous avons vécu, certes, ce que nos yeux ont vu, mais non pas pour rester à cela, mais pour s'appuyer sur les promesses que Dieu fait pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, il est impératif pour ceux qui veulent compter sur l'Éternel d'écouter le témoignage de cet invité mystère et de le laisser conduire notre vie. Et ça, c'est la deuxième partie, justement, de notre école du dimanche. Quel est, finalement, le témoignage de cet invité mystère? Mais pour bien le comprendre, il nous reste encore une énigme à résoudre. Car le titre de serviteur de l'Éternel, en premier lieu, n'aurait pas dû forcément nous faire penser à un individu, mais peut-être plutôt à un peuple. Car Ésaïe lui-même a amené la confusion tout au long de ses chapitres. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Israël est le candidat idéal, finalement, pour être ce fameux serviteur de l'Éternel. Seulement, il y a un problème. Tout au long de ces chapitres aussi, ce serviteur semble être un bien piètre serviteur. Écoutez comment l'Éternel l'interpelle. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Qui est sourd, comme mon messager? C'est terrible, hein? C'est terrible. Et voilà qui semble expliquer en quelque sorte la soudaine apparition d'un nouveau serviteur. C'est comme si finalement ces quatre chants annonçaient l'arrivée d'un serviteur enfin fidèle, d'un serviteur qui écoute enfin les paroles de l'Éternel, d'un serviteur qui est finalement tout ce qu'Israël n'a pas réussi à être. Et le troisième chant souligne particulièrement ses qualités chez le serviteur qui s'avance. On l'a encore entendu ce matin. Le Seigneur, l'Éternel, me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Il a ouvert mon oreille et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas reculé. Alors forcément, avec une telle description, avec une telle tension, on se pose la question. Est-ce que de par sa fidélité, de par son exemplarité, ce serviteur par excellence est appelé à remplacer le serviteur qui a déçu l'Éternel? Est-ce qu'il est appelé à se substituer à Israël? Et pour ceux qui ont médité le deuxième chant du serviteur dans les groupes de maison, on a vu à quel point ce chant aurait pu faire craindre cette substitution. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener Jacob à lui et pour rassembler Israël auprès de lui. L'Éternel m'a fait cet honneur et mon Dieu est ma force. Un verset étonnant parce qu'il sépare justement le serviteur comme peuple de l'autre serviteur. Mais ouf, un texte qui rassemble les deux. Ce n'est pas pour une substitution de mission que ce serviteur a été appelé, mais pour ramener le mauvais serviteur, le serviteur infidèle à Dieu. Au lieu de disqualifier le peuple d'Israël, le serviteur par excellence est appelé à accomplir une œuvre en sa faveur, comme pour repêcher ce serviteur et le requalifier pour sa mission originelle. Mais comment est-ce possible? Comment va-t-il faire cela? Comment un peuple dont les propensions à pécher n'ont cessé d'être dénoncées tout au long de ce livre pourrait en définitive être lumière des nations? C'est là où arrive ce dernier chant du serviteur, le plus connu. C'est lui qui va percer ce mystère. Dans ce dernier chant, c'est comme si l'Éternel avait convoqué les Israélites incrédules autour de lui pour qu'ils méditent avec lui sur l'œuvre du serviteur par excellence. Cette fois-ci, nous ne sommes plus au retour d'exil, mais après la croix. Et nous entendons des différents témoignages comme pour essayer d'analyser ce qui s'est passé. Quelle a été l'œuvre de ce serviteur? Le premier à nous interpeller, il semble que ce soit Ésaïe. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Et ensuite s'avance un premier groupe de témoins. Ce sont justement les Israélites, aveugles et sourds, qui confessent qu'ils n'ont pas reconnu celui qui leur est été envoyé. Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Mais soudainement, le revirement a lieu. C'est comme si le sens de cette œuvre se faisait plus clair, même pour ce peuple aveugle et sourd. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Le peuple incrédule pensait de prime abord que le sort de ses serviteurs était comme une condamnation de Dieu. Mais il a fini par reconnaître que ses souffrances, son martyre, étaient en fait cette fameuse œuvre en sa faveur. Cette fameuse œuvre que le serviteur, par excellence, était appelé à accomplir. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Et ensuite, c'est comme si Ésaïe reprenait la parole. Témoin, lui aussi, privilégié, par avance de l'œuvre de l'Éternel, il vient à la barre et ajoute son propre témoignage à l'œuvre sacrificielle du serviteur par excellence. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas d'âme. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant son qui l'attonde, il n'a pas d'âme. Il a été arraché à la vie par contrainte, suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. En définitive, il est bien question de substitution, mais non pas comme on l'a craint un instant, une substitution de mission. La substitution dont il est question ici, c'est une substitution de culpabilité. Le serviteur par excellence paie pour le péché du serviteur infidèle, afin qu'une descendance, une nouvelle descendance, voie le jour et que le peuple serviteur de Dieu soit renouvelé dans sa mission. Et c'est l'Éternel, en définitive, qui déposera son propre témoignage pour conclure ce fantastique passage et souligner de quelle manière la substitution de culpabilité a permis de requalifier tout le peuple. Car après avoir tant souffert, mon serviteur verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens connaîtront mon serviteur le juste, mon serviteur les déclarera justes et se chargera de leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il est intervenu en faveur des coupables. Voilà comment le serviteur défaillant qui aurait pu être rejeté est relevé par l'œuvre du serviteur par excellence, afin que l'un et l'autre soient associés pour que le salut atteigne toute la terre. Chacun dans son rôle, j'ai envie de dire. Le rôle du serviteur par excellence, ramener le serviteur défaillant à une juste relation avec Dieu. Le rôle du serviteur défaillant, maintenant que sa relation est rétablie avec Dieu, proclamer ce que le serviteur par excellence a accompli jusqu'aux extrémités de la terre. Le serviteur défaillant fait désormais un avec le serviteur par excellence pour annoncer l'œuvre de salut. Il est temps de tirer quelques applications plus précises pour nous de cet invité mystère. La première application, c'est bien sûr un rappel fort de la centralité de notre mission en tant que peuple de Dieu. C'est cette vision du fantastique du serviteur par excellence. Cette vision qui nous montre de quelle manière le peuple défaillant n'a pas été licencié de sa mission, mais rétabli pour l'accomplir, enfin, réellement. Voilà qu'il nous rappelle qu'il n'y a pas de salut sans service, qu'il n'y a pas de restauration sans mission. Quand l'Église cesse de voir de quelle manière elle existe pour les autres, elle cesse tout simplement d'être l'Église. Quand nous cessons de voir comment notre service prend place dans cette grande mission, nous recommençons à marcher par nos propres forces, à vouloir accomplir les choses par nous-mêmes. Nous redevenons ce serviteur défaillant, inutile pour Dieu. Nous ne voyons plus comment notre service s'associe à l'œuvre du serviteur par excellence. Quelques simples questions de méditation. Est-ce que je vois le lien entre ce que je fais, ce que j'accomplis, et ce que Christ a accompli pour moi? Si je pense faire quelque chose pour Dieu et que je ne vois pas le lien, c'est comme si je me replaçais avant Ésaïe 53, je redevenais un serviteur défaillant, inutile. Est-ce que mes activités, quelles qu'elles soient, hein, ce n'est pas un appel là à venir remplir les fiches de service de l'Église, est-ce que mes activités, quelles qu'elles soient, que ce soit mon activité professionnelle, dans ma famille, dans mes loisirs, et bien sûr mon service à l'Église, sont bien en réponse à ce que ce serviteur a accompli pour moi? Sinon je rends caduc Ésaïe 53. J'ai besoin de veiller, nous avons besoin de veiller tous ensemble, régulièrement sur ce lien, sur ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, afin d'accomplir réellement la mission que Dieu nous a confiée. La deuxième application associée, c'est cette nécessité de renouveler sans cesse notre émerveillement, notre adrénaline à chercher qui est cet invité mystère. Notre émerveillement devant les promesses accomplies, que Dieu accomplit pour nous. Je suis personnellement touché par la manière dont tout cela se passe dans le livre d'Ésaïe. Une prophétie écrite dans un contexte inaudible. Un peuple qui a vécu un miracle et qui devient tout d'un coup complètement hermétique, sans doute, à la consolation de Dieu. Pourquoi aurait-il besoin d'être consolé? Il a vécu la libération. Une prophétie comme reportée 150 ans plus tard à un peuple qui, lui, a besoin profondément d'entendre ces paroles de restauration. Mais devant lequel tout cela reste comme un mystère, comme en suspens. Certes, il se passe des choses, mais tout cela reste bien en deçà de ce que Dieu a promis. Un message qui s'adresse enfin à nous, 2500 ans plus tard, et qui nous fait tourner les yeux vers le moment où cet invité mystère a enlevé son masque pour nous faire connaître l'œuvre qu'il a accomplie. Forcément, un message qui fait écho à cette période de Noël, où nous pourrions facilement passer à côté du mystère que nous professons. Nous savons déjà tout ce qui se cache derrière le déguisement. Nous savons déjà quelle œuvre il va accomplir. Et pourtant, nous avons besoin de nourrir sans cesse notre attente de ce qu'il va faire, de nous laisser toucher par notre besoin profond de son œuvre, car c'est en elle que nous sommes appelés inlassablement à puiser notre guérison pour accomplir pleinement notre mission. Que Dieu renouvelle en chacun d'entre nous l'attente de Noël. Je vous prie. Seigneur notre Dieu, quelle œuvre fantastique tu as accomplie. Et c'est vrai que je reconnais dans mon cœur, dans mon âme, la tendance parfois à banaliser, à rendre cela plus traditionnel, plus habituel. Seigneur, ces textes si profonds, si incroyables que tu nous donnes dans ta parole m'aident à voir de quelle manière tu as accompli quelque chose qui dépasse totalement ce que mon imagination peut comprendre et voir, ce que mon cœur peut espérer. Alors Seigneur, je me tiens devant toi avec tous mes frères et sœurs ce matin et je te demande vraiment de renouveler en moi, en nous, à la fois cet émerveillement devant ta venue, ta mission pour nous restaurer devant toi. Mais non pas pour juste ouvrir le cadeau et le garder pour moi, mais Seigneur aussi pour voir dans toutes les occasions que nous avons dans ces prochaines semaines, et nous en avons un certain nombre en Église, de voir de quelle manière tu veux susciter en moi, en nous, ce désir de vivre notre service pour accomplir désormais cette mission, parce que nous sommes un avec toi et que tu nous as requalifiés pour accomplir ce qui était impossible pour nous de faire. Alors Seigneur, je te prie vraiment de susciter cette flamme, ce réveil en moi. Je te prie cela pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions accomplir pleinement ce que tu as prévu que nous fassions durant toute cette période. En ton nom, Seigneur. Amen.